de cannabis. L'idéologie héritée de 68, qui a consisté à supprimer l'interdit social sur la drogue, est une catastrophe. La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
J'ai de la bonne herbe pour vous, hein ? La meilleure qualité de toute la région.
Cannabis Circus.
Si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Canu, de Poids de Mégas, la plus rebelle des radios, et comme tous les lundis soirs, c'est l'émission du cirque, ou dans ce qu'il en reste, du collectif d'information et de recherche cannabique.
C'est ce qu'il en reste à Lyon.
Ce qu'il en reste à Lyon, voilà, oui, merci, parce que ça se développe.
C'est pas partout pareil, il y a des endroits où, dans le centre de la France, le cirque est très actif par exemple.
Ouais, par très actif, je veux dire plus actif que nous.
Ah ben oui, bah, ils sont 5 ou 6 à faire des communiqués, à écrire des articles. C'est un travail d'équipe qui s'est mis en place petit à petit. Et dont on remercie Dominique, mais il n'est pas tout seul. Alors je donnerai leur prénom plus tard dans d'autres émissions. Mais bon, voilà, il y a toute une équipe qui travaille avec Dominique, que nous saluons et que nous encourageons. Qui se bouge beaucoup et qui, d'ailleurs, ben, puisque tu me laisses le dire, je vais le dire, il sera vendredi à Bègles pour une nouvelle table ronde dans le cadre d'une possible expérimentation que voudrait lancer Puech-Rossignol, Clément Puech-Rossignol, le maire de Bègles, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc voilà, Dominique sera présent vendredi et bah, on attend ses comptes rendus pour voir un peu de quoi tout ça, de ce qu'ils vont parler, de quoi ça va tourner et si ça va avancer ou pas. Bref, voilà, on vous tiendra au courant, mais en tout cas le cirque n'est pas mort, en tout cas à Lyon il est on va dire un peu comment, je sais pas, actif quand même, parce que nous on est là, on est trois, bon on n'est pas grand, ouais, on n'est plus beaucoup, on était beaucoup plus à une époque, on faisait beaucoup plus de choses. Voilà. Mais bon, il y a d'autres membres du cirque qui font bouger tout ça ailleurs. Et donc on les remercie, on les encourage et on les salue chaleureusement. Voilà. Et oui, et puis l'émission Cannabis Circus que vous pouvez réécouter. C'est possible maintenant, vous pouvez la réécouter, il faut pour cela que vous vous rendiez sur le site internet du cirque. J'ai bien dit du cirque et pas du cirque Lyon, je l'ai déjà dit la semaine dernière, le cirque Lyon est voué à migrer, enfin à disparaître, et une partie de son contenu va migrer sur le site internet du cirque. Voilà, bon, parce que bon, on s'est quand même posé la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir plusieurs sites internet du cirque? Surtout à partir du moment où à Lyon, ben, on organise plus de marche mondiale, on fait plus d'appels du 18 juin et on n'est plus assez nombreux, on n'a plus les ressources nécessaires. Donc voilà, un seul site internet, ce sera le site du cirque qui vous tiendra au courant, même des infos qui pourraient se passer à Lyon s'il se passe des choses, qui peut quand même arriver dans l'avenir, hein, on ne sait jamais. Voilà. Allez, revue de presse.
Oui, revue de presse. Alors, justement, on va refaire un peu d'histoire, on va repartir. C'est Libération qui fait un article sur Libération et sur l'appel du 18 juin, dans lequel, évidemment, on parle du cirque et de Jean-Pierre Galland. Ben, on va revenir là-dessus. On va voir après sur le cannabis thérapeutique. Bon, il faudrait peut-être commencer par ça, hein, parce que, de toute manière, en Europe, il y a 21 pays sur 27 qui ont légalisé le cannabis thérapeutique. Donc, voilà.
Bah, c'est une interview de quelqu'un.
C'est une interview
de Joël Bockert.
D'accord. Eh ben, on verra ça tout à l'heure.
Qui est neurobiologiste, voilà.
Allez. Grande-Bretagne, ben là, ils ont fait un pas de plus vers la réglementation des produits à base de CBD.
Oui.
Voilà. Bon, et après, ils se posent des questions entre portions individuelles et portions typiques. Voilà, il y a quelques chiffres à savoir, les pourcentages de cannabinoïdes qu'il peut y avoir dans les plantes, et qu'est-ce qui est bon, mauvais, et est-ce qu'il y a des overdoses, voilà. Bref, ensuite, ça sera la Suisse, après la Grande-Bretagne, qui, eux, ouvrent on en parle depuis longtemps, mais le premier dispensaire légal de cannabis, voilà, va s'ouvrir en Suisse très bientôt. Il y en a un deuxième qui va suivre très vite. Et il va y avoir surtout des études et voilà, qui auront peut-être un intérêt universel. Mais ça va être des Suisses qui l'ont écrit. Allez, enfin, on continuera avec l'Allemagne. On est dans les pays. Alors, eux, ils ont tellement de cannabis médical qu'ils sont obligés d'en détruire. Y compris du cannabis médical qu'ils ont acheté à un prix quand même relativement fort à l'étranger.
C'est fou, quoi.
C'est bref. Et enfin, les odeurs du cannabis. D'où ça vient, tout ça? Comment on dit là,
le 3-méthyl-2-butène-1-thiol. 3-2-1-MBT.
Ouais, c'était pas ça que je pensais. C'était plutôt l'odeur et le bruit qu'on y avait, la schkinky, l'odeur schkinky. C'était ça qui m'avait amusé là-dedans. Bref, est-ce que ça vient que des terpènes? Est-ce que ça vient aussi d'autres choses?
Bah, ça vient d'autres choses.
Si oui, de quoi? De quel composé volatile minoritaire il peut faire? Et donc, c'est là qu'on arrive sur ces termes barbares, le 3-21-MBT. Qui a l'air d'être très très bien dans la production des odeurs.
Très bien. Enfin, en tout cas, cette molécule joue un rôle prépondérant au niveau de l'odeur, en tout cas. Voilà. Et une molécule qu'on ne connaissait pas encore. Et on va voir qu'elle est très proche de... On verra à la fin.
Allez, et pour commencer, on va parler des Klebs.
Des chiens.
Ouais.
Pourquoi tu dis les Klebs?
Bah, alors là, c'est vraiment des alcabos, ils sont payés à renifler la drogue.
Non,
même s'ils sont pas bons, c'est à ça qu'ils servent.
Mais parce qu'on instrumentalise et on manipule ces pauvres chiens qui n'ont rien demandé.
Oui, ils ont été tellement manipulés que de chiens, ils sont passés à Klebs.
Oh.
Ça te va mieux comme ça?
Non, j'aime pas bien. Ils ont rien fait, les pauvres. On les maltraite, même, je dirais. Je pense, je me demande s'il n'y a pas un peu de maltraitance. Comment on fait pour transformer un chien lambda en chien renifleur de produits?
Eh ben, on lui donne des encouragements à chercher. Et quand il trouve, tu lui donnes une récompense et après, il cherche.
Oui, bon. Mais en tout cas, c'est pas bien fiable, visiblement.
A priori, non.
Parce qu'il y a une étude australienne qui s'est quand même penchée sur la question, à savoir, est-ce que... les chiens renifleurs qui détectent la présence de drogue et donc de cannabis, est-ce que quand ils reniflent quelque chose, est-ce qu'en fait ils reniflent bien quelque chose? En fait, est-ce que c'est bien fiable? Est-ce que leur truffe est bien fiable?
Oui, parce que surtout le problème, c'est qu'à partir du moment où le chien a marqué l'arrêt, le policier a quasiment tous les droits.
En France.
Et y compris là-bas, puisque.
En Australie,
du coup,
parce que c'est une étude australienne.
Il y a la pratique des fouilles à nu et la mise en place de tests. Voilà, donc ça continue. Le vidage de la voiture, etc. Quoi, des trucs qui sont un petit peu.
Intrusifs et barbares.
Voilà, dire, c'est ça.
Et violents même.
Donc il n'y a pas qu'en France, c'était juste pour rappeler ça.
Oui, tout à fait.
Heureusement qu'on n'est pas les derniers crétins de la Terre, on n'en est pas loin, mais bon.
Alors juste, voilà, dur quand même, c'est ça d'où ça vient, c'est un article du blog cannabis.com. Voilà, alors, juste au passage, si vous utilisez Chrome, vous n'irez pas sur blogcannabis.com, utilisez plutôt Mozilla, sinon, pour une raison que j'ignore, on ne peut pas accéder au site, je ne comprends pas pourquoi. Bref, peu importe, revenons à nos moutons, ou à nos chiens plutôt. Donc voilà, une étude australienne récente qui a pesé quand même sur...
100 000 cas de fouilles.
Ouais, c'est pas rien.
C'est pas une petite étude de sur 10 personnes. Hein.
Et il se trouve quand même, écoutez bien, parce que le chiffre quand même m'a un peu surpris, il se trouve que les chiens auraient donné de fausses alertes dans 75% des cas. Mais c'est énorme. Énorme.
Ouais, donc c'est une analyse qu'il y a eu pendant 10 ans quand même. Hein.
Oui, c'est
donc
pas...
Donc ça a duré longtemps. Donc il y a eu des années, des étés où les chiens se sont trompés que 21% de fois. Et il y a un autre été où, c'était en 2016, où ils ont eu 32,5% de réussite. Voilà, donc...
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
C'est l'inverse. La pire année, où ça a été 2014, où ils ont détecté...
Ils ont eu 21%
de succès.
Et la meilleure année, deux ans plus tard, en 2016, 32,5%.
Voilà, mais de succès, pas d'échec.
Oui.
Ah ok, d'accord, j'avais compris l'inverse, excuse-moi.
Ah, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'était clair dans ma tête.
D'accord.
Je suis désolé. Bref, en tout cas, donc il y a des nuances d'une année à l'autre, mais bon, globalement...
Oui.
De 21 à 32, hein, c'est la fourchette, plus ou moins 7% autour de. De quoi? De 20%, hein? Non, de 16%.
D'accord.
Non, de 20, je de sais 25 pas, là, je... 20 quart, pardon. Okay. 25.
Bon.
C'est ça.
Et 25, alors 26. Et il y a une analyse qui a aussi été menée par des journalistes du Chicago Tribune. Et alors là, écoutez bien, parce que c'est quand même, ça vaut le coup. Donc, ces journalistes ont montré qu'en fait, les chiens renifleurs donnaient de fausses alertes, donc dans plus de la moitié du temps, et qu'ils étaient aussi plus susceptibles de le faire dans les cas où justement où le suspect, eh bien, était par exemple un latino. Et une autre étude qui a été publiée dans la revue Animal Cognition indique que les chiens renifleurs, en fait, donnent souvent de fausses alertes lorsque leur maître perçoit la présence de substances illicites. Voilà, donc en fait, ça veut dire quoi? Que les croyances des maîtres chiens affectent les résultats des déploiements de chiens détecteurs de drogue. De détecteurs d'odeur, pardon. C'est... Donc voilà, il suffit qu'en fait, que le maître soit raciste, qu'il ait un comportement, on va dire, orienté et un peu différent. Le chien s'en rend compte et du coup il confirme en fait les suppositions du maître, mais tout en pouvant tout à fait se tromper. Sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'il a marqué, comme tu disais tout à l'heure, les forces de police vont aller très loin dans l'investigation.
Il va falloir voir, donc dans l'étude, il faudrait savoir s'ils ont classifié les couleurs de peau. Et si d'après ça, on peut dire que les chiens se trompent plus envers les gens de couleur que par rapport aux caucasiens.
Non, mais c'est pas les chiens qui se trompent, c'est les maîtres.
Oui, mais oui, mais c'est oui.
Mais à partir du moment où le maître va se tromper, le chien va se tromper en fait.
Que ce duo, voilà, les chiens se trompent. Voilà, et donc ça serait intéressant de savoir si c'est vraiment. Si, là, il y a les a priori du maître. Mais il peut aussi y avoir. Ils sont.
Non, je pense pas qu'il puisse y avoir. Enfin, la priori du maître déteint sur la priori du chien, on va dire, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est pas fiable. La truffe du chien n'est pas fiable et elle l'est encore moins si son maître est un raciste, en fait. J'ai envie de dire, c'est presque ça.
Voilà. Et c'est pas les chiens qui sont racistes.
Non, c'est pas les chiens. Et du coup, c'est. Pauvres bêtes, moi j'ai envie de dire, on les emmerde ces pauvres chiens, qu'on leur foute la paix, tout simplement quoi.
Voilà. Allez. Et pour finir, la petite blague de tu non.
De quoi?
Tu sais, la petite blague du douanier qui parle à son chien.
Ah.
Et qui dit mon chien m'a dit que vous aviez de la drogue.
C'est un espèce de truc photo qui circule sur les réseaux sociaux
et
avec
la
un policier.
À ça
un policier qui contrôle un jeune et qui lui dit le chien me dit que tu as de la drogue. Sur toi. Et du coup, le mec répond au policier, ton chien te parle et te dit que j'ai de la drogue et c'est moi le drogué et c'est moi.
C'est moi qui prends les
psychédéliques. C'est moi qui prends le contrôle. Donc voilà. Bon, c'est pas exactement comme ça. S'il faut le voir, c'est plus rigolo. Bref, musique à la tout de suite.
Come on!
Et voilà, donc c'était Jimi Hendrix, hein, Purple Eyes.
Oui. Oui, oui, oui. Allez, article de Libération, maintenant article de Vendredi, dans les années 70. Le journal était bien seul à lutter pour la dépénalisation.
Une Libération qui parle de Libération.
Oui, et puis qui parle du cirque aussi.
Ouais. Si la légalisation n'a pas changé en 50 ans, la bataille culturelle a depuis considérablement fait avancer le débat. L'interdit moral et la logique purement répressive ne convainquent désormais plus personne.
Alors, c'est pas si la légalisation n'a pas changé, c'est si la législation.
Oui, bien sûr.
Voilà. Non, non, mais bon, bref.
J'ai dû fourcher.
T'as fourché. Ta fourche à languer. Enfin, ou l'inverse. Bref, voilà. Alors, des décennies durant, Libération a prêché dans le désert. Comme nous, d'ailleurs. Mmh. On aurait pu prêcher à deux dans le désert, ça aurait été mieux, peut-être. Mais ils ne nous ont pas appelés.
Ouais, parce que dans les années 70, défendre la dépénalisation de la consommation de cannabis, c'était être envoyé aux voluptes post-68ardes d'une gauche aussi libertaire que laxiste. Voilà, donc c'est sorti avec, on peut rappeler tous les signataires. Hein.
Enfin, un certain nombre, parce qu'il y en avait plus que ça. Là, hein.
Oui, il y en avait plusieurs centaines, en effet. Donc là, ils ont cité Henri Leclerc, Kouchner, Gilles Deleuze, Isabelle Huppert, Edgar Morin, Jean-François Bizot, André Glucksmann. Voilà, il y a quand même quelques personnes qui avaient signé cet appel. Appel que Jean-Pierre Galland a repris donc dans les années 93 avec l'appel du 18 juin qui se passait à Paris mais aussi un peu partout en France.
Mais dont à Lyon.
Et dont à Lyon, voilà.
Jusqu'en 2019. Bon, peut-être qu'il y en aura un autre dans les prochaines années, mais en tout cas, c'est plus d'actualité pour le moment. Mais oui, effectivement, donc avec l'apparition du cirque au début des années 90, eh bien, le cirque en 93 avait relancé l'appel du 18 juin à la Villette à Paris, où ça se tenait pendant. Je sais pas, il y a eu un appel du 18 juin cette année à la Villette là.
Je crois qu'il y a un.
Je crois
pas. Non, peut-être non. Pas. Ça a été finalement annulé, oui, je crois.
Ou il y a eu quelque chose, mais ailleurs, je sais pas.
Ouais.
Parce qu'il se trouve qu'en fait, à la Villette, maintenant, ils en veulent plus du 18 juin, tellement il y en a eu pendant pas mal d'années. Et j'ai cru entendre dire dans les dernières années, là, pas cette année, mais qu'apparemment, ils ne voulaient plus entendre parler d'appel du 18 juin à la Villette. Quoi. Il fallait trouver un autre spot, en fait. Ah, c'est ben dommage. Mais bon, bref, voilà. Vas-y, je t'ai coupé peut-être, non, je sais pas ce que tu voulais dire.
Non, je sais pas. Bon, de toute manière, ce que dit Libé, hein, c'est que il faut arrêter avec les distinctions entre drogue douce et drogue dure, hein, et puis en plus surtout de considérer que l'alcool n'est pas une drogue. Voilà, ça fait partie des débilités. Il faut aussi lutter contre l'idée de l'escalade. L'idée donc selon laquelle fumer aujourd'hui, c'est inévitablement sniffer pour se piquer demain. Donc voilà, sortir de ces bêtises. Et donc Libé, pour Libé, donc comme pour beaucoup de gens et comme le Portugal le fait, hein, c'est celui qui a dépénalisé en premier quasiment. Et il faut laisser traiter les vrais toxicomanes non comme des délinquants mais comme des malades victimes d'addiction et laisser fumer en paix ceux qui s'adonnent à la fumette récréative. Voilà. Donc aujourd'hui, rien n'a changé. Hein. Le discours dominant consiste à s'accrocher à la notion d'interdit moral, censé protéger la société en général et la jeunesse en particulier. Cela reste encore aujourd'hui la doctrine officielle. Hein. On l'a entendu avec Sarko dans notre générique, avec Darmanin tous les quatre matins. Voilà, donc lui, il continue à s'enferrer dans la guerre à la drogue, mais qui n'en finit plus de démontrer ses limites et même ses dérives. Voilà, donc après ils écrivent qu'un des paradoxes français de notre pays est un de ceux dont la légalisation est la plus rigide et la moins efficace si on en croit le niveau de consommation. Mais ça de toute manière c'est vrai toujours, plus quelque chose est interdit, mieux, plus il a de succès. Ça fait partie des choses assez incompréhensibles et aussi bizarre que ça paraisse. C'est totalement.
C'est pas si simple.
C'est pas si simple, mais quand on regarde globalement les pays qui interdisent, les pays qui légalisent, comme en Hollande, ou les pays où c'est très toléré, les pays où c'est très toléré, Il n'y a pas les mêmes problèmes et il y a beaucoup moins de consommation que dans les pays où c'est très très contrôlé. Quoi.
Oui, oui, bien sûr. Je réagissais par rapport à ce que tu disais. Tu avais l'air de faire une espèce de proposition générale, alors qu'en fait, non, c'était que sur le cannabis dont tu parlais. Ouais. Voilà.
Oui, parce que après, bon,
les produits populaires qu'on interdit, effectivement, ça ne marche pas et il va se passer ce que tu dis. Après, il peut y avoir des prohibitions qui fonctionnent à partir du moment où ça n'intéresse personne, où le produit n'intéresse personne. Ça a déjà eu lieu. Hein.
L'absinthe, par exemple, était un très bon exemple. Il y avait un petit marché qui continuait à percoler, on va dire. Et puis, surtout qu'on pouvait en acheter dans d'autres pays européens. Donc là, c'est repassé une certaine autorisation de vente de l'absinthe. Quoi. Mais voilà, c'est moins... Les gens n'en abusent pas. Voilà, c'est comme tout, quoi. Il ne faut pas abuser des choses qui travaillent trop le cerveau. Cannabis, l'interdit dépassé. Hein, 30 ans après, le rappel original, donc ils publient donc, dans Libération, le rappel du 18 juin. Et donc, où ils ont réédité l'appel du 18 juin de 1976. Et après, il rappelle que les règlements de compte sur fond de trafic de cannabis font régulièrement la une de l'actualité à Marseille, Grenoble ou Paris. Cela devient questionner de plus en plus nettement un statu quo à côté de la plaque. Et puis on rappelle, ça t'a fait plaisir, Libération révèle aussi les errances de la guerre contre la drogue et la dérive de l'office des stupéfiants jusqu'à la chute de son patron, François
Thierry.
Bon. Voilà, dont le procès il devrait avoir lieu, lui.
Oui, bon, on verra. Ouais, ça va pas tarder.
S'en occuper quand même.
Mais là, dans cette partie-là, justement, c'est dans cet article, en tout cas, il nous explique de quoi finalement Libération traite dans ses colonnes sur le sujet des drogues et du cannabis, en fait. Effectivement, il nous explique là que Michel Henry documente donc régulièrement les évolutions. Qui se passe un peu partout, nous parle de Emmanuel Fansten justement, qui bosse sur les dérives de l'Ocrtis à l'époque, maintenant l'Ofast.
Vous savez, bref, c'était les Simitones que François Mitterrand était allé voir attraper en plein cœur de Paris dans le 16e arrondissement.
Non, pas François Mitterrand, François Hollande.
François Hollande, j'ai dit.
François Mitterrand.
Aujourd'hui, je suis vraiment à côté de la plaque.
Mais du coup, voilà, en fait, là, cette dernière partie d'article, c'est Libé qui dit voilà en gros de quoi Libé parle. Et Libé parle de tout ce qui se passe, toutes les réformes qu'il y a. Un peu partout, et des journalistes qui suivent tel dossier, et tout ça pour finir par nous dire que les mentalités ont évolué. Voilà, je les trouve très optimistes chez Libé, ok. Alors moi je dirais les mentalités ont un petit peu évolué. Voilà, à mon avis ça serait un peu plus ça la réalité que de dire oui les mentalités ont évolué. Bon, tout ça pour nous, il dit ça pourquoi, parce que en 2021 sous le titre Joint Venture à l'Assemblée, Libération ouvre ses colonnes à trois députés issus de la France Insoumise, des Républicains et des Républiques En Marche, favorables à la légalisation. Voilà, ben moi j'en dis par rapport à ça, c'est que ça a malheureusement pas beaucoup évolué, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a peut-être une grosse poignée de politiciens de tous bords qui sont prêts à faire bouger les choses, alors qu'il y a 25 ans, la poignée était petite. Donc voilà, la poignée a un peu grossi, mais ça reste une poignée. Hein, une poignée de politiques, de députés, c'est-à-dire en gros, bon, pas grand monde, et une force pas suffisante pour faire pencher la balance, quoi, politiquement. Malheureusement, on en est quand même encore là, hein, je veux dire, je suis désolé, hein, mais... Voilà. Mm-hmm. Donc oui, il y a eu des progrès. On l'a dit la semaine dernière. Je parlais d'avancées millimétriques, voire de l'ordre du micron. Voilà. Ouais, on en est là. Alors bon, effectivement, après, il y a des initiatives. On ne peut que saluer l'expérimentation qui a été entamée sur le cannabis médical, et on voit à peu près comment c'est en train de se terminer. Un amendement, une autorisation temporaire, bref, un bras d'honneur en gros. Je vois ça comme ça. Mais bon, en tout cas, merci à Libé de nous faire un petit récap de tout ça.
Voilà, avec des colonnes, et il a ouvert trois députés, donc LFI, LR et LREM, favorables à la légalisation, comme quoi il y en a dans tous les partis. C'est ce qu'on dit depuis des années. Hein.
Toujours, oui.
Il y a le même pourcentage dans tous les partis qui fument. Les extrêmes fument un petit peu plus que le centre, et la gauche un petit peu plus que la droite.
Voilà. Oui, Walou. Eh ben, merci Libé, on est bien avancé. J'espère qu'ils referont un autre article le 18 juin 2023.
Ouais, le chemin s'annonce encore long.
En effet.
Allez, et si on commençait par légaliser le cannabis thérapeutique ? Donc, c'est le fameux Joël Bockert,
qui est neurobiologiste.
Neurobiologiste montpelliérain. L'important est qu'il est neurobiologiste, plus que le fait qu'il soit de Montpellier, bien entendu.
Et Midi Libre a bien voulu nous faire un minuscule article où il pose trois questions à ce neurobiologiste.
Voilà, John Burkett, donc,
spécialiste
en neuropharmacologie et professeur émérite de l'Université de Montpellier. Donc, il a écrit, entre autres, un ouvrage intitulé Le cannabis, quelle histoire ? En 2021. Qui rappelait que le chanvre est une des plus vieilles plantes du monde, peu consommatrice d'eau et peu sujette aux maladies, et donc très bien adaptée à notre époque. Voilà, comme disent d'autres d'une autre façon, c'est de la mauvaise herbe, donc ça pousse partout. Donc, trois questions, c'est bien ça ?
Oui, parce qu'il ne faudrait pas en poser plus, hein. Il ne faudrait pas trop en montrer quand même.
Voilà, bon, après, il a souligné aussi les multiples usages que l'on peut faire du chanvre, hein, du papier, du textile, de l'isolant, du biodiesel, du plastique, sans parler l'utilisation médicale, de bien-être ou récréative.
Oui, certes, mais bon, peut-être que si Midi Libre avait voulu vraiment creuser le sujet, lui poser plus de questions, on aurait eu un article beaucoup plus complet, mais bon, bref.
C'est vrai, mais les gens dans le Sud n'ont pas le temps de le lire, sinon. Quelle est la situation
du cannabis
en France ?
Le progrès
n'est
pas mieux, hein. Le progrès, il n'y a même pas d'article sur...
C'est vrai. Allez, quelle est la situation du cannabis en France ? Demande Midi Libre.
Oui, donc qu'est-ce qu'il dit Joël Bockert ? Il dit on est le pays européen qui réprime le plus sa consommation et celui où on en consomme le plus. Je comprends qu'il soit difficile de légaliser le cannabis récréatif, car il s'agit d'une drogue avec les addictions qui vont avec. Mais les pays qui l'ont fait ne le regrettent pas. Au Canada, qui l'a légalisé en 2018, la vente illégale a chuté de 31 à 7%. C'est important, car on ne sait pas trop ce qu'on achète dans la rue.
Regrettez-vous cet immobilisme en France ?
Je regrette surtout qu'un vrai débat soit impossible sur ce sujet. Il montrerait pourtant que les avantages de la légalisation sont bien plus importants que les inconvénients, avec tous les problèmes d'addiction, de trafic et de violence que l'on connaît.
Et qu'en est-il du cannabis thérapeutique alors ?
21 pays sur 27 en Europe l'ont déjà légalisé. On pourrait commencer par celui-là. D'autant qu'une expérimentation sur le cannabis médical montre des résultats positifs et notamment pas d'effets secondaires ou addictifs. Elle est menée en France depuis mars 2021 sur près de 3000 patients qui souffrent d'épilepsie réfractaire à tout traitement, de douleurs cancéreuses, de crampes liées à la sclérose en plaques et de soins palliatifs. J'espère vraiment qu'on avancera sur ce sujet malgré les réticences des académies de médecine et de pharmacie sur le sujet, car actuellement on a des patients qui s'automédicalisent et ça peut être dangereux. Sur ce sujet, il n'y a pas de raison d'être plus méfiant que les autres pays européens. Voilà, très court article. Mais
très intéressant.
Ouais, mais en tout cas, ça me donne envie d'aller voir
le cannabis qui est l'histoire, d'aller l'acheter.
Un peu, oui. Il a l'air c'est bien,
exact,
ça, Joël Bockert. Je le connaissais pas.
Fait aussi. Moi non plus. Ça fait un moment que j'ai plus acheté de livres, mais il en sort toujours beaucoup. Hein. Il y en a plusieurs par an. Le Royaume-Uni fait un pas décisif vers la réglementation des produits à base de CBD. Donc c'est dans Newsweed.
Oui, avec un article technique quand même et presque compliqué, j'ai trouvé.
Presque inintéressant.
Et même presque pas très intéressant, mais en tout cas...
Qu'est-ce qu'il faut retenir surtout ? C'est que donc, en Angleterre, donc, ils étudient au moins les choses.
Oui.
Et ils ont aussi étudié les traces de cannabinoïdes, et en particulier de THC, dans les produits à base de CBD destinés aux consommateurs. Parce qu'on veut bien légaliser le cannabis bien-être avec le CBD, mais pas le vilain THC. Hein, voilà. Donc, ils ont fait une étude là-dessus. Donc, il y a l'Advisor Council for the Measure of Drug. Je le prononcerai très mal, évidemment. la CDMM a fait des recommandations et donc le gouvernement pense suivre ce rapport donc qui a été fait sur le contrôle de ces substances à base de CBD.
Oui.
Voilà, donc ils voulaient savoir exactement ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont étudié un petit peu. Alors il y avait des questions assez. Donc ils ont étudié un peu ce qu'il y avait. Ils ont étudié toutes ces plantes au spectrographie
de masse.
Voilà.
Ou puis avec d'autres techniques encore.
Et l'autre à phase gazeuse, ça me revient pas encore. Mais c'est pas très grave.
Ben oui, ils ont mis des moyens technologiques quand même.
Voilà, tout à fait, ils font ça très bien.
Si tu veux.
Bon, ça, on reviendra là-dessus. Bref, en tout cas, ils mesurent un petit peu tout ça, parce qu'il faut savoir un peu quelle est la portion individuelle donc, qu'on peut accepter déjà pour le CBD,
oui.
Pour ben, le fumer, le prendre en tisane ou l'ingérer, hein, parce que de toute manière, a priori, ça s'ingère plutôt. Mais il pourrait être réglementé en tant qu'aliment, donc c'est un peu là-dessus qu'ils cherchent ou qu'ils évolueraient.
Ça a l'air, ouais.
Ça a l'air. Et puis après, donc pour tous les phytocannabinoïdes, a priori, par unité de consommation, il faudrait pas qu'il y ait plus de 500 microgrammes. Donc là, on est quand même dans des toute petite dose, parce que pour le CBD, ils étaient plutôt de 70 à 10 mg. Ce qui est beaucoup plus. Mais bon, on est loin des nanogrammes qu'on recherche dans le sang après. Hein. Toujours pareil, hein, tout est dans la mesure. Voilà, bah alors je sais pas, donc ils vont faire sans doute le premier cadre juridique sur le cannabis à base de CBD, avec des choses très strictes et très contrôlées, d'autant plus que ça sera de l'industrie. Hein. Il faut que ça soit bien cadré. T'as d'autres choses à rajouter sur cet article ?
Non.
Non. Il fait assez court ?
Oui, bon, ça ira bien. Mais on suit le dossier quand même, parce que ben, c'est quand même intéressant. Voilà.
Ouais. Ah oui, c'est... Allez, encore un petit article sur l'Allemagne, non ?
Sur la Suisse. On peut-être un peu de musique, non?
Un peu après.
Bon, d'accord, ok, très bien. Alors, un autre article de Newsweed qui nous parle du premier dispensaire légal en Europe qui devrait ouvrir bientôt dans le cadre d'un sixième projet pilote. Parce que, alors, la Suisse, on en parle régulièrement, vous savez, c'est ce pays pas très loin d'ici. Qui a déjà bien avancé sur le cannabis bien-être ou avec du CBD dedans, je ne sais plus comment il faut dire à la fin, et où le cannabis avec du CBD, on a le droit même de mettre au moins 1% de THC. Mmh. Voilà. Ce qui peut presque en faire un cannabis médical. Voire qui peut même en faire un.
D'ailleurs. Selon la dose de CBD, bien sûr. Et voilà. Selon les autres CBN ou autres cannabinoïdes qu'il peut y avoir, puisque.
Tout à fait.
Différents cannabinoïdes soignent différentes maladies.
Voilà. Mais ceci dit, on sait bien que quand il y a au moins 1% de THC, ça change quand même pas mal de trucs. Hein. Parce que quand il y en a moins de 0,02%, en gros, on a du foin, quoi. Hein. Faut quand même être clair, hein. Alors, bien-être, je sais pas.
Mais du foin qui a des odeurs quand même. Hein.
Franchement.
Ah ben justement, il y a des terpènes quand même. Et on sait qu'il y a ça. Bon, bref.
Ouais.
Restons sur ce qui se passe en Suisse.
Voilà. Donc, bref. Là, ça va concerner. L'étude pilote là, dont on parle va concerner le canton de Bâle-Campagne.
Ouais. 3950 adultes.
Voilà. Qui a reçu l'approbation de la commission d'éthique de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale.
Ben
oui, parce que
toutes les autorisations.
Mais c'est fédéral, la Suisse.
Bah oui.
Donc
avec des pharmacies et les clubs, ils vont faire de la vente classique. Hein, le premier magasin légal d'Europe pour le cannabis destiné à la consommation est en cours d'installation dans la commune d'Altschwil.
Altschwil. Oui, on va dire ça comme ça.
Altschwil. Et un autre magasin va venir à Liestal, donc voilà, ça évolue là-bas pour les édiles de cannabis, d'extrait ou de liquide de vapotage. Ben voilà, l'étude va commencer au quatrième trimestre 2023. Donc on y est et va durer 5 ans.
Alors juste attends, là dans les produits, t'as été quand même rapide. Fleurs, extraits, hachiches, édibles et liquides de vapotage. Mais fleurs aussi.
Et fleurs aussi. Et édibles aussi. C'est le édible qui m'a...
D'accord. Non, mais je veux dire, c'est pas juste il te file des huiles et puis terminé et pas de fleurs. Non, là, fleurs, il y a tout. Bon, c'est une expérimentation qui pour du récréatif, on est d'accord. Et alors, moi, quand même, 3950 adultes dans le canton qui pourront participer à l'étude. Et là, on n'est pas à Genève, là.
Ouais, on est dans un canton, suisse.
Dans un canton,
en
quoi.
En pleine montagne.
Et
en France, ils sont même pas arrivés à trouver 3000 malades.
Pour l'expérimentation sur le médical, alors... Ouh, ok, bon ben bravo. Donc l'étude, voilà, comme tu disais, devra débuter donc au quatrième trimestre. Bah voilà, là, en fait, elle va débuter là. Okay. Elle a peut-être même débuté d'ailleurs, début octobre. Elle est dirigée par un professeur qui s'appelle Michael Schaub, qui est le directeur scientifique de l'ISGF, et qui devrait enregistrer, qui est prévu donc pour enregistrer les comportements de consommation ainsi que la santé physique et mentale des participants. Hein. Je cite, je pense, M. Schaub, qui dit « Après une première réunion d'information sur l'essai et la manière de gérer le cannabis, les participants potentiels seront soumis à un test d'aptitude médicale et à une étude en ligne. Si les participants sont acceptés dans l'étude, ils pourront se procurer légalement du cannabis au point de vente pendant une période limitée à l'aide d'une carte de participation. Des enquêtes continues sur le comportement de consommation, la santé physique et mentale des participants auront lieu tous les 3 à 6 mois. » Et donc là, les effets sociétaux de la consommation, en particulier la sécurité, ordre public, voilà, vont être analysés grâce à un échange étroit et à l'intégration de groupes cibles pertinents tels que ministère public, voilà. Et donc Schaub rajoute également, les résultats de l'étude peuvent contribuer à un débat éclairé sur la politique de santé concernant l'usage responsable du cannabis et servir de base à la prise de décision sur la réglementation à long terme. En outre, nous souhaitons étudier s'il est possible d'avoir un meilleur accès aux consommateurs à haut risque souffrant, par exemple, de problèmes de santé mentale, afin de les orienter vers les centres de soins cantonaux appropriés. Ils ont compris, eux, là-bas. Ils y arrivent. Qu'est-ce qui fait que nous, en France, on n'arrive pas à comprendre ça, quoi ? C'est incroyable. C'est... Bon, bref, ben, bravo aux Suisses, encore une fois.
Voilà, pourtant, le prix sera entre 8 et 12 francs suisses. Ça fait peut-être pas tout à fait 8 à 12 euros, mais c'est,
bon,
c'est
pas, près, pas loin. Pas très loin.
Pas loin, on arrive bientôt à la parité, il me semble. Je crois pas qu'on les ait dépassés.
Non, mais je crois que c'est à peu près pareil. Hein. Si c'est pas 8 euros, ça va être 7,90 ou 7,50, je sais pas. Et là, qui c'est qui s'exprime ? Stéphane Strasser, PDG de Swiss Extract, qui dit. Notre objectif, c'est de fournir des produits de haute qualité avec une grande fiabilité sur la base d'une étude scientifique solide. Nous mettons l'accent sur la qualité biologique, le caractère suisse et la transparence. Comme nous n'utilisons que des substances naturelles pour la culture de nos matières premières, nous garantissons des produits non polluants. Chez nous, toute la chaîne de valeur est réunie sous un même toit. La culture, la transformation et l'emballage ont lieu exclusivement en Suisse. En outre, nous documentons le processus de production de la graine de la plante jusqu'au produit final. Swiss Extract est pour nous l'œuvre d'une vie avec une sincérité à l'égard des personnes et de l'environnement. Voilà, précis comme une horloge suisse, quoi. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Voilà. Un autre acteur s'exprime, c'est Finn Hansel, PDG de Sanity Group, qui dit... Nous nous réjouissons de l'approbation de l'étude à Bâle Campagne et de l'opportunité d'apporter notre contribution à l'acceptation sociale et au transfert de connaissances autour de la plante de cannabis et de ses multiples utilisations. Notre ambition, c'est de soutenir le projet pilote de l'ISGF grâce à nos connaissances et à notre expérience en tant qu'entreprise internationale du secteur du cannabis et principalement basée sur la promotion de la recherche dans le domaine du cannabis. Depuis la création de l'entreprise, notre objectif est de poursuivre la recherche sur les bienfaits du cannabis et de déstigmatiser la plante en collaboration avec l'ISGF. Je ne sais plus c'est quoi déjà l'ISGF. Alors j'ai dû. Hein, c'est quoi déjà que je les retrouve ? Ah voilà. L'Institut Suisse de Recherche sur les Addictions et la Santé. Et les Sanity Group. Voilà, bon, bref, très bien.
Bref, en tout cas, ils vont travailler dessus, ils vont faire des études, et on vous parlera de tout ça dans 5 ans.
Et attends, dernière phrase.
Mais non, pas avec les Suisses. Ça se trouve, dans 6 mois, on a déjà des résultats.
Ah, mais c'est les résultats finaux, ça sera dans 5 ans.
Oui, d'accord. Non, mais bon.
Je pense qu'en France, ça ne sera pas encore évolué.
Je pense qu'on aura même des résultats intermédiaires avant 5 ans en Suisse.
Sans doute.
oui, parce que quand même.
Pas lentement, mais on va vite quand même. Hein.
Oui, non, mais moi, voilà, tu me laisses finir. Ma dernière phrase que j'aime bien, nous nous attendons à ce que l'étude aboutisse à des résultats intéressants qui seront d'intérêt international. International. Ça veut dire que peut-être qu'en France, ça aura un impact. Bref. Allez, un peu de musique.
Avant de parler de l'Allemagne qui brûle son cannabis thérapeutique. Hein.
Allez, un peu de musique.
Donc c'était Corpse.
Voilà.
Une chanson ou Cannabis Corpse, Down of Weed Possession.
Voilà.
Du weed metal, a priori, et un grand salut à nos amis de Clermont.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Et oui, salut à eux, chaleureusement. Allez, après la Suisse, on va parler un peu de l'Allemagne. En Allemagne, il se passe décidément tout un tas de choses.
Ils
veulent légaliser, mais
ils détruisent des quantités de chanvre thérapeutique utile.
Bah, ils en ont quand même donné à certains de leurs voisins européens, qui en voulaient bien. Mais visiblement, nous, on n'en a pas voulu. Ou alors, je sais pas, ils ont peut-être pas osé nous en proposer. Ils se sont dit, oulala, la France, laisse tomber avec Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et alors, sa politique anti-cannabis, bref, c'est pas la peine. Mais en tout cas, voilà, bon, bah, c'est quand même très triste. Je trouve quand même vraiment déplorable. Il y aurait donc eu un excès de cannabis médical en Allemagne. Et donc il faut s'en séparer.
Ah, c'est vraiment une situation compliquée et bizarre, quoi.
Ils ont déjà détruit quasiment une demi-tonne. Et c'était du cannabis qui était cultivé en Allemagne en plus.
Donc, parce que oui.
Bah, les 490 kilos.
Ah oui, qui ont été brûlés.
Déjà, en plus, ils essaient de se mettre au diapason et de produire leur propre cannabis. Et c'est celui-là qui brûle. Enfin, pas que celui-là, mais en tout cas, ils ont brûlé une partie de celui-là. C'est incroyable.
Après,
quoi.
Ils ont quand même importé 23 tonnes en 2022. Donc voilà, et la moitié des produits disponibles sont distribués via des pharmacies pour des patients. Voilà, donc principalement contre la douleur. Les stocks excédentaires est expédié vers d'autres pays européens, mais le reste, hop, eh ben on l'a détruit. Et donc oui, cette année, on a détruit donc 96 kilos, 400. Pourquoi j'ai 400 et quelques kilos dans la tête ?
Bah 490 kilos qui ont déjà été détruits et qui étaient cultivés et qui venaient d'Allemagne.
Voilà, mais ils avaient dépassé la durée de conservation.
Oui, ben oui, c'est sûr que s'ils en ont commandé trop et qu'ils sont fait livrer 23 tonnes et que ouais, qu'ils en avaient besoin que de 10,
c'était pas très bien séché, évidemment, ça moisit. Même si c'est censé être pur.
Bah attends, c'est censé être du médical et en plus ça, bon, on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est pas, toi tu dis ça a moisi, mais ça a peut-être pas moisi, je sais pas, mais.
Voilà, donc la situation unique de l'Allemagne, donc, c'est d'avoir une offre excédentaire de cannabis médical, ce qui contraste avec les pénuries qui ont précédé sa légalisation à des fins médicales. Donc comme quoi, les choses sont assez bizarres. Voilà, donc le cannabis médical, que cette destruction suscite des questions sur la gestion des ressources médicales précieuses. Donc voilà, et heureusement qu'il y a des projets de légalisation partielle. Sol récréatif, et donc les excédents vont bientôt trouver une nouvelle utilité dans ce marché en évolution de l'usage récréatif de cannabis en Allemagne.
Bah, faut espérer, ouais.
Bah ouais.
Faut espérer. Mais bon, ça fait flic, hein, quand même. Franchement, surtout quand on voit comment ça se passe en France. Et que globalement, les personnes qui sont malades et qui font partie de l'expérience sur le cannabis thérapeutique, et que là, avec l'amendement, on a retiré les fleurs, mais qu'il n'est même pas certain qu'il y ait des huiles, parce qu'on en a parlé déjà au niveau des fournisseurs et du prix d'achat, etc. Ça se trouve, ils ne vont même pas vouloir en vendre, il n'y aura plus rien dans les hôpitaux, et puis. Voilà, bon, c'est absurde, mais bon, il se trouve que voilà, il y a des choses absurdes dans la vie aussi. Voilà, il reste plus qu'un article, on se réécoute un peu de musique ou non ?
Réfléchissais, que tout à l'heure je cherchais avec quoi ils avaient analysé, mais en fait, dans l'article de tout à l'heure, dans l'article anglais sur les différents composés chimiques, ils ne disent pas comment ils ont fait les analyses de les microgrammes qu'ils ont cherchés par ici ou par là.
Tu parles d'article sur les Anglais qui...
Oui, tout à fait, on ne sait même pas. Si c'était les produits de base, plutôt que la substance dans le sang. C'est ça la question. Ou alors il y avait les deux, mais on ne sait pas du tout par quelle méthode ils ont fait leurs analyses. Voilà, voilà. Mais sinon, donc, le dernier article, bien sûr, donc c'est là qu'ils font des analyses assez poussées, techniques et physiques surtout.
Ouais, bon, d'accord.
Non, même pas. Moi, je dis n'importe quoi.
Ah bah, c'est bah, bravo.
c'est bien. Allez, donc, c'est blogcannabis.com. Hein, ce
encore, oui, un dernier article. Oui.
Donc, des composés volatiles mineurs non terpénoïdes déterminent les différences aromatiques du cannabis à haute puissance. Donc, c'est dans Science du 3 novembre. Et un examen plus approfondi des composés et des molécules qui confèrent au cannabis son parfait unique.
Son parfum unique.
Son parfum unique. Et son odeur unique.
Et oui, parce que c'est quelque chose qui interroge beaucoup de gens, en fait. Y compris les amateurs, enfin les amateurs et les moins amateurs, d'ailleurs. Mm. Ça a une odeur bien particulière. Bien particulière.
Et une odeur quand on l'utilise, quand on le fume, quand on le cultive, quand on le sèche, voilà. Bref, en tout cas, l'odeur singulière, je pense que c'est surtout celle qui est quand on fume. Et certains l'ont qualifié de skunky.
Voilà.
Donc, voilà. Donc, la moitié des plantes de cannabis peuvent dégager des arômes différents. Donc, il va falloir, donc, pour ça qu'il y a des noms assez divers. Et ce qu'ils ont marqué, qu'il y a des thiols et différents types de composés sulfurés et volatiles, des CSV, qui sont aussi responsables de cette odeur unique. Voilà, donc la composition phytochimique du cannabis est riche en diversité chimique. Voilà, donc ils sont allés chercher, ils vont chercher même tout ce qui est tous les cannabinoïdes, y compris le THCA. Donc le c'est un acide tétrahydrocannabinolique. Et c'est un précurseur du THC. Et c'est pour ça qu'il faut transformer un petit peu, soit en le roulant, soit en le pressant, le THCA pour que ça devienne du THC. Voilà, donc là-dedans, bah, il y a des... le THC ne contribue très peu à l'odeur du cannabis en raison de sa faible volatilité. À l'inverse, les terpènes se volatilisent facilement dans les conséquences ambiantes.
Dans les conditions ambiantes.
Dans les conditions ambiantes, voilà.
Ils sont importants en tant que composés aromatiques dans la nature, voilà.
Voilà, donc il y a plein de trucs aromatiques, de molécules aromatiques, comme des esters ou des alcools, etc. Donc après, évidemment, il y a certaines variétés qui ont plus de bruit que d'autres. Et donc ils ont fait des études, voilà, c'est bien là, avec très, très technique, avec des spectromètres de masse, donc où tu prends le produit et tu le détruis avec des radiations, et la chromatographie en phase gazeuse, bon, tu fais un petit peu la même chose, mais par une autre méthode chimique, et aussi une détectation par ionisation de flamme. Voilà, donc ils essayent à peu près tout, donc ça donne différentes sortes de composantes, parce qu'on sait bien que quand ça brûle, les composants se recomposent et font d'autres choses. Voilà, et les chercheurs ont découvert donc une molécule appelée le 3-méthyl-2-butène-1-thiol. Dit autrement, c'est le 321-MBT, hein, le 3-méthyl-2-butène-1-thiol. 321-MBT. Voilà, donc c'est cette molécule qui jouerait un rôle prépondérant dans la production d'odeurs au cannabis.
Oui, et ce qui est plus surprenant encore, c'est que... En fait, on apprend aussi que, on apprend aussi que donc ce 321-MBT, c'est aussi la même molécule qui est responsable de l'odeur caractéristique de la bière chaude et de la moufette. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la moufette ?
Bah, je suis pas sûr. Il me semble que c'est un mélange de bière et d'autres choses, mais j'ai peur de dire des bêtises.
Je fais une recherche rapidos.
Voilà, donc en tout cas, il y a encore l'ISGF hein, qui fait des études là-dessus assez importantes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Alors, en plus de tout ça, les conditions de traitement d'eau donnent un extrait concentré.
Non, non, la moufette, je crois que du nom.
C'est un animal ?
C'est un putois.
D'accord. Alors, le skunk, alors.
Non, alors, la moufette n'est pas un putois, mais c'est un animal, voilà. Ça n'a rien à voir avec le putois, mais c'est un animal, en fait. Alors, c'est quoi la différence ? Eh bien, voilà, la moufette est noire, avec des rayures blanches sur toute la longueur de son dos, et porte une queue touffue. Voilà, ce que n'est pas le putois. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un animal qui a une odeur forte, sans doute. Et qui est proche de l'odeur de la bière chaude, aussi. Bon, c'est étonnant, mais en tout cas, c'est la même molécule. C'est, voilà, c'est comme ça.
Voilà. Et donc, et sinon, il nous parle de colophane de H flu. Donc le colophane de hashish, donc il le traite avec de la glace et des conditions de traitement douces, donnant un extrait concentré qui préserve les propriétés aromatiques et de l'inflorescence à partir de laquelle il est créé, ce qui fait une matrice d'échantillons idéale pour l'analyse d'analytes à faible concentration. Voilà, donc le colophane de hashish glacé est un type d'exsudat de cannabis qui sépare et concentre de nombreux métabolites secondaires des tissus végétaux fraîchement congelés. Voilà, donc des trichomes différents.
Trichomes.
Et différentes. C'est, j'ai perdu ma dernière page, c'est pour ça que je n'y suis plus. Et différents autres métabolites secondaires, dont, voilà, sans oublier évidemment les terpènes. Je crois que j'ai à peu près tout. Donc, ils oublient aussi que, voilà, donc, ils utilisent aussi des micro-ondes et des choses pour. Où ils pressent avec de la chaleur ou une pression douce pour décarboniser partiellement le THC.
Ouais.
C'est ce que je disais tout à l'heure, et donc pour donner une huile épaisse et visqueuse connue sous le type de hache glacée ou la colophane. Voilà.
Ben nous voilà plus avancés.
Voilà, tout à fait. On sait qu'il n'y a pas que des terpènes.
Et bien on a découvert le 321 MBT.
Ouais, sans oublier la colophane. Hein.
Voilà, et puis différentes sortes de cellules.
Il y a aussi des terpènes.
Oui, mais ça, on les connaissait, voilà. Ça.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Donc, il y en a beaucoup. Il y a plein d'odeurs qui dans le cannabis, c'est pour ça que.
Ça, les terpènes, on les connaissait, mais.
Et d'ailleurs, il faut aussi les regarder sous microscope. J'avais vu ça en Suisse lors d'un très vieux salon du chanvre, où les fleurs étaient aussi présentées sous microscope, et celles qui avaient des petits arômes de fraises et autres, avec des petites taches rouges dessus, c'était assez extraordinaire. Voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Une petite brève pour finir ?
Non.
Un petit mot ?
Non plus. Ah si, un petit mot, oui, excuse-moi. Donc voilà, si vous nous écoutez, si peut-être vous êtes du côté de Bègles vendredi en fin d'après-midi, et que peut-être vous souhaitez assister aux réunions à propos de l'expérimentation que compte lancer le maire de Bègles, peut-être rapprochez-vous de la mairie de Bègles, renseignez-vous, peut-être que vous pourriez, je sais pas, assister justement, donc, ou participer à cette réunion, table ronde, réunion de travail, bref, je sais pas si ça vous intéresse. Et donc, si vous êtes du côté de Bègles vendredi, il y aura un représentant du cirque, il y aura Dom, il y aura d'autres personnes également, sans doute des politiques, des médecins, des travailleurs sociaux. Bref, ça peut être intéressant. Et nous, on attend avec impatience le compte-rendu de cette réunion, de ce groupe de travail. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, à cette antenne dans Cannabis Circus, sur Cannabis Circus, sur Radio Canu. À la semaine prochaine, allez, chez Chasseur de son maintenant. Au revoir.
Si on avait commencé à l'heure, il faut finir à l'heure.